mardi 9 novembre, c'est l'heure de l'aérospatiale animée par nul autre que moi-même, Julie Gagné, toujours accompagnée comme à chaque semaine de Jacques Gignac à la mise en onde. On le remercie chaleureusement. Cette semaine à l'aérospatiale, plusieurs choses, notamment Christelle Géard nous amène dans le monde de l'art web. Elle nous amène visiter pomaltescape.com, qui est une œuvre web qui est le résultat de la résidence de Frédéric Laliberté à la Chambre Blanche. On rencontre Anne-Lise Griffon, qui est directrice artistique de Regard, pour parler de l'exposition d'Olga Chagaoudinova, qui s'appelle Stonemake. On rencontre aussi Francis Arguin, qui nous va nous présenter son exposition « Mes économies », qui est présentée à la Petite Galerie de l'Œil de Poisson. Et en début d'émission, comme à l'habitude, on discute avec Éric Dorion. Bonjour.
Bonjour, je t'appelle de la lointaine Limoilou.
Oh, donc on est dans le même quartier, c'est pas super.
On est dans le même quartier.
Dans le même cadre régional, tout est beau.
Je suis à un jet de pierre de Charlebourg, ma chère.
Oh!
Attention, le nord de Limoilou represent.
Quand même. Éric, aujourd'hui, tu nous parles de ton travail.
Ben, écoute, cette semaine, ça me tentait de faire un petit clin d'œil. Je vous ai parlé la semaine passée un peu du site web notype.com. Donc, je vous avais proposé des pièces qui paraissaient sur ce net label montréalais qui sévit depuis 1995 maintenant. Et ça me tentait de vous présenter des pièces solo que j'ai produites pour le label, mais la particularité, c'est qu'il y a quand même un album qui date de l'an 2000, donc, et un autre album qui est sorti en 2004, mais qui avait été fait en 2002. Le premier album, et donc je tiens à dire aux auditeurs qu'on peut retrouver toutes ces pièces gratuitement via le site www.notype.com. Les pièces sont gratuites, on peut les écouter et on peut les télécharger. Les deux premières pièces que vous allez entendre sont des pièces tirées de l'album Sonny Blunt Project. Ce projet-là, c'était en fait de faire des pièces uniquement à partir d'échantillons retravaillés. Mais la source principale et la seule source en fait qui s'est utilisée pour toutes les pièces qui sont sur cet album-là sont des extraits de disques de l'artiste Sun Ra. Sun Ra, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un artiste d'avant-garde. J'irais dire que c'est l'artiste le plus connu de l'underground à peu près. On parle d'une discographie de plus de 200 albums. On parle également d'un type dont les premiers enregistrements dateraient, selon les experts, de 1928. Et il est décédé dans les années 90.
Donc, une carrière vraiment très, très, très prolifique.
Voilà, échelonné sur plusieurs années, plusieurs décennies, a influencé, si on parle à les Beastie Boys, ils vont dire que Sun Ra est un de leurs influences. Si on parle à DJ Shadow, on peut parler autant aussi à des artistes de l'avant-garde comme John Zorn qui vont citer souvent Sun Ra comme étant le maître à penser. Donc, j'invite les auditeurs à faire des recherches sur cet incontournable de la musique free jazz, de la musique contemporaine. Il a joué avec John Cage aussi. Donc, les deux pièces qu'on va entendre, c'est... et puis, oui, c'est ça, l'imaginaire, tout l'imaginaire de Sun Ra, toute l'imagerie était beaucoup axée sur ce qu'on appelle un mouvement qui était l'afro... l'afro-futuriste, donc, s'inspirait beaucoup des thèmes de l'espace. Il disait qu'il venait de l'espace, qu'il était venu sur Terre pour enseigner la paix et la musique à la race humaine.
Ah oui, il y avait tout un concept.
Oui, absolument. Et puis, ces spectacles Théo en couleur, on peut voir des vidéos sur YouTube. Il y a quelques excellents films qui ont été fait sur lui, et puis on peut le voir. Il était toujours en big band, hein? Et donc il y avait son Sun Ra Orchestra avec lui, puis il y avait une vingtaine de musiciens, et la particularité aussi, c'est que ces musiciens-là le suivaient pendant longtemps. le saxophoniste majeur de la formation, Marshall Allen, qui est toujours vivant, a commencé à jouer avec Sonora dans les années 50 et n'a jamais quitté l'orchestre. Et même maintenant, en 2010, on peut avoir le Sonora Orchestra sans Sonora, puisqu'il est décédé, mais qui est dirigé par le Marshall Allen. Et pour moi, c'est le meilleur spectacle que j'ai vu à vie. Je l'avais vu, ce spectacle-là, il y a 4 ans à Montréal, et j'en parle et j'en ai des frissons.
Et donc, Sonny Blonde Project, c'est un peu un hommage, dans le fond?
C'est totalement un hommage à Sonora. Et qui a une influence majeure sur mon travail. Donc la première pièce sera Mach 100 for Mr. Ra. Ensuite, la deuxième pièce sera Love on Planet Earth or Die.
Oh.
Donc je me suis inspiré aussi beaucoup justement de ces thèmes, ces thèmes afro-futuristes pour ces pièces. Tandis que les deux autres pièces, ça c'est vraiment mon premier projet solo.
Là, on est dans le micro, là.
Oui,
micro
absolument.
Très petit.
Voilà, donc c'est l'Acarien, ouais. Donc le projet c'est Acarien. C'est un peu une réflexion que je m'étais fait. Je m'étais rendu compte que les Acariens nous peuplaient.
Littéralement.
Ils sont vraiment pas mal plus hot que nous. Et donc c'est une série de pièces, c'est 6 pièces qui explorent un peu l'univers du macro, du micro, du nano. Donc tout simplement la pièce Acarien numéro 4 et Acarien numéro 6. Je rappelle aux auditeurs que ces pièces-là sont disponibles sur le net label No Type. Mais cependant, il y a une foule d'artistes. Et ça passe du noise au free jazz en passant par de l'électronique très dansant du type IDM. Donc, sur ce site-là, on peut trouver vraiment plein de trucs en marge, plein de trucs underground, plein d'art audio, plein d'ambiances différentes. C'est un très beau site et puis je pense que c'est encore... encore très, très, très pertinent.
Mais tout ça est gratuit aussi, là.
Tout ça est gratuit, et donc j'invite les auditeurs à aller visiter ce site merveilleux.
Ben merci beaucoup, Éric Dorion.
Alors, je vous souhaite à la prochaine, et puis j'essaierai d'être en studio, ou du moins d'être encore plus près du studio la semaine prochaine.
C'est bon, ta présence nous fait toujours plaisir.
Voilà.
Ben d'ici là, on écoute le travail d'Éric Dorion, on écoute Match Mac 100 for Mr. Ross sur les ondes de CKRL 89.1. On vient d'entendre Mac 100 for Mr. Ra, une pièce qui est tirée de l'album Sonny Blonde Project de notre collaborateur Éric Dorion. Un album qui rend hommage à Sun Ra. Si vous êtes intéressé à avoir plus d'informations sur cet artiste qui semble avoir marqué l'histoire de la musique au 20e siècle, vous pouvez aller voir sur Internet. En ce moment, à l'œil de poisson, j'ai un petit peu manqué mon introduction d'entrevue. En ce moment, à l'œil de poisson, il y a trois expositions, mais on rencontre un des artistes qui expose dans la petite galerie. En fait, l'artiste qui expose dans la petite galerie, une exposition qui s'appelle Mes économies. Francis Arguin, bonjour.
Bonjour.
Ça va bien?
Ça va bien, toi?
Mais oui, t'es pas trop nerveux de ton passage à la radio?
Non, ça va, ça va.
Tu sembles en parfait contrôle.
Ça se passe à l'intérieur.
Ben oui, c'est ça, entre nous deux, avec les auditeurs, justement, à la maison. Dis-moi, Francis, t'as beaucoup travaillé en performance, t'as travaillé en radio, justement, avec Éric Dorion, mm-hmm. avec Vente de feu. Qu'est-ce qui t'a amené à pratiquer l'installation depuis quelques années?
Je dirais, en fait, c'est ça, comme tu disais, effectivement, j'ai commencé beaucoup en performance, donc ça fait environ 10 ans que j'en fais en ce moment. Mais 2010 a été une période, disons, plus calme à ce niveau-là. J'ai décidé de prendre un petit recul, là, par rapport à la performance pour me consacrer plus à l'installation. Mais je dirais que ce qui m'a apporté à l'installation, c'est justement la performance. Parce que pour mes performances, ce que je faisais, en fait, je refusais en quelque sorte de travailler avec des objets réels pour essayer de me distinguer un peu dans ma pratique. Donc, souvent, les performances qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont travailler avec des objets, bon, comme des chaises, des tables, des objets qu'ils vont trouver dans les magasins. Moi, je me suis dit, pour essayer de me démarquer, je vais développer mes propres outils. Donc, si je voulais, par exemple, travailler avec un casque de sécurité, ben, j'en faisais un comme en styrofoam, mais juste comme l'image d'un casque. C'est pas vraiment fonctionnel. Je me développais plein d'outils comme ça, d'outils performatifs. Donc, j'ai développé ma pratique à un objet comme ça, une sorte d'intérêt à créer des objets. Je pense que c'est comme ça que j'en suis venu à faire de la performance aussi, à de l'installation de façon plus... pousser, en fait, finalement, le rapport au corps a un peu diminué, puis j'ai commencé à m'intéresser plus à vouloir plus faire d'objets, en fait.
L'objet dans son rapport à l'espace
c'est
aussi,
ça, exactement,
j'imagine.
Plus en termes de sculpture et de...
Parce que, dans le fond, mes économies, là, si j'essaie de simplifier un peu l'exposition, c'est comme, moi, j'appelle ça comme une espèce de structure, en fait, qui est faite de faux objets que tu as créés, qui sont empilés de manière quand même assez précaire. Donc, j'imagine que c'est à cause de cette démarche-là, justement, que tu as décidé de ne pas prendre des vrais objets, mais plutôt de les faire toi-même.
Effectivement, parce qu'en fait, moi, j'ai l'impression que ce projet-là, j'ai un peu l'impression d'avoir travaillé avec des objets, comme des objets que j'ai faits, mais comme si je les avais trouvés. Donc, c'est un peu étrange, comme si j'avais trouvé des sculptures, en fait. Parce qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réalisé de nombreux objets au départ, en ayant grosso modo l'idée, globalement l'idée que j'allais comme empiler les objets puis remplir la salle, parce que c'est une obsession chez moi là, dans ce projet-là. Et puis, donc c'est ça, je produisais des objets sans trop savoir où j'allais en venir, en fait. Puis je me suis ramassé avec différentes collections d'objets de différentes natures, puis je les ai ensuite assemblés comme des jeux de blocs. Donc vraiment, cette espèce de processus de... On fait un objet en ce moment, mais on ne sait pas trop comment on va jouer avec dans l'espace. Donc,
dans le fond, il y a quand même un intérêt pour la juxtaposition des volumes, la composition aussi, j'imagine.
Effectivement. Donc, j'ai pris comme l'espace de la galerie est assez limité au niveau de la surface de plancher, puis je voulais donc utiliser l'espace que j'ai. Puis il y a quelque chose d'intéressant dans la petite galerie, c'est que le plafond est très haut, donc c'est un espace un peu inusité en termes de proportions, là. Donc, l'idée, c'est ça, c'est d'accumuler au niveau vertical là, des objets, puis aussi de créer un sentiment de vertige un peu, donc et puis d'envahissement. Donc, quand on arrive, c'est sûr que ça crée une surprise, parce que c'est rare qu'on voit la galerie aussi remplie que ça, je pense. Là.
Mais puis, on n'a aucune manière d'avoir un recul complet sur l'installation.
Donc, il y a une sorte de, peut-être, une petite frustration aussi, dans le sens qu'on imagine que cet objet-là pourrait peut-être fonctionner autrement dans un espace plus grand, puis on pourrait prendre du recul, mais là, on est comme confronté à la petitesse de l'espace, puis... aussi, l'œuvre menace à quelque part de tomber aussi. Même, il y a très peu d'objets qui sont fixés réellement entre eux. Donc, il y en a deux, je pense, qui sont vissés. Mais sinon, c'est vraiment la gravité qui joue qui joue son rôle. Donc, c'est une petite secousse trop intense et puis le tout.
Voilà, donc si vous voulez passer autour, il y a un endroit, surtout sur le mur du fond, qui est particulièrement restreint à vie aux personnes qui sont très, très minces. Elles peuvent passer, sinon, les conséquences peuvent être assez désastreuses. Est-ce que ça relève d'une réflexion peut-être sur la fragilité ou sur la précarité, le déséquilibre?
Je dirais que je travaille souvent avec des matériaux comme ça, des matériaux assez fragiles. Donc, toujours, peut-être ça vient de la performance aussi, cette idée d'éphémérité, de travailler avec des choses, passer beaucoup de temps sur quelque chose qui finalement va comme disparaître ou se dépérir tranquillement. Donc, il y a ça aussi qui est présent là-dedans. Puis aussi l'idée de précarité, de déséquilibre, donc de danger potentiel. Je pense que c'est des choses qui viennent des préoccupations qui viennent un peu de la pratique de la performance aussi. Là.
Puis est-ce qu'il y a aussi la volonté, parce que moi ce que je vois, bon oui, ce sont comme des constructions, des faux objets, mais le sentiment que j'ai eu en étant dans la petite galerie, c'est vraiment de me sentir complètement dépassée, puis de me sentir vraiment petite devant tout cette évocation de matériel-là. C'est volontaire aussi de créer ce sentiment-là, de vraiment de petitesse devant...
Ouais, ben aussi quelque chose d'insaisissable, je dirais... même au niveau physique, donc l'accumulation d'objets, mais au niveau, disons, des références, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de références qui partent d'un bord puis de l'autre, puis il y a des choses aussi qu'on peut pas reconnaître, des éléments qui demeurent ambigus, d'autres qu'on peut nommer qui nous semblent un peu rassurants, comme les œufs, puis le burger, tu sais, qu'on est très réconfortant, parce que c'est comme, bon, un burger, je le vois, mais d'autres choses qu'on sait pas trop comment les nommer, ça m'intéresse beaucoup. Mais c'est ça, il y a quelque chose qui était souterrain dans ce travail-là. C'est vraiment c'est de créer un ensemble insaisissable. Donc au niveau puis c'est pas aussi facile que ça peut le paraître, en fait, parce que je veux dire, c'est pas, je travaille pas en absurdité là, j'ai pas l'impression de faire quelque chose d'absurde. C'est juste comme quelque chose qui est comme mystérieux, tu sais. Donc il y a quelque chose, ça, qui est très ambivalent, puis
C'est drôle que tu parles d'absurdité, parce que je me posais justement la question avec les œufs qui ont comme l'air en train de cuire sur la forme qui évoque le matelas. Ouais. Le gros burger, ensuite comme les espèces de dallos de bois, justement des objets dont le sens fuit finalement. Je pense que t'as bien réussi, parce qu'on n'arrive pas nécessairement à saisir comme toute la signification. Moi, ça m'a fait aussi peut-être un peu l'idée de... quand on garoche quelque chose, c'est dans un garage, on ouvre la pièce, puis...
Ouais, il y a l'idée d'entrepôt là-dedans aussi, puis en fait, il y a beaucoup d'objets qui réfèrent à des choses du quotidien, mais tu sais, justement, c'est peut-être un ensemble d'objets qu'on pourrait voir, je veux dire, quand on voit des choses sur le bord de la rue, par exemple, des, je sais pas,
dans le coin du 1er juillet,
exactement, donc on n'essaie pas de comprendre qu'est-ce que ces objets-là font ensemble, sont là, sont réunis simplement, tu sais, puis il n'y a pas nécessairement de sens. Moi, je m'intéresse à ça, donc c'est vraiment un trip, je dirais, plus formel d'avance, mais c'est sûr qu'il y a des préoccupations aussi par rapport aux évocations que j'aimais, là, donc, mais c'est pas, il n'y a pas de message, disons, très, très précis là-dedans, dans le sens que si je voulais dire quelque chose de très précis, je le communiquerais autrement, par exemple, avec la parole, donc c'est ça, il y a quelque chose de... comme je disais tantôt, d'insaisissable, qui est très important pour moi.
Puis tu parlais de trip formel, moi, ça m'a surtout frappé, en fait, quand on regarde dans le haut complètement de l'installation, il y a comme des espèces de petites planchettes de bois, puis bon, il y a des tuyaux, je crois, aussi, au travers de ça, et là, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait une préoccupation formelle très grande, puis j'ai vu que tu avais utilisé un peu le même type de planche quand tu as exposé à Regard l'an dernier, donc c'est une veine que tu as décidé de...
Ces objets-là, explorer. En fait, c'est effectivement des objets que j'ai récupérés d'une autre installation. Donc, c'est ça, je me suis dit, ben, ces objets-là, je vais les changer de couleur, premièrement. Puis c'était quelque chose que j'avais bien aimé travailler. C'était comme des lignes, mais tridimensionnelles. Puis je me suis dit, je peux aller ailleurs avec ça aussi. Donc, j'avais envie de reprendre aussi, c'est ça, pour...
Les amener, tout simplement.
C'est ça, ailleurs aussi. Puis j'avais pas l'impression que le projet reposait uniquement là-dessus, donc je me permettais de... Je voulais pas, de toute façon, représenter des choses que j'avais déjà présentées à Regard, parce que c'est quand même pas loin les vies de plusieurs personnes qui ont vu l'exposition.
Ça fait aller pas ailleurs longtemps aussi, non plus. Mais
faire une petite citation comme ça, en un an, je me suis dit, en quelques mois, je me dis, je peux quand même me permettre ça.
Mais là, je change peut-être un peu de sujet. En fait, j'ai envie de parler de la facture de ton travail. ton dessin est quand même très, très simplifié, quand même très stylisé aussi, surtout des lignes noires. C'est droit. Est-ce que c'est une conséquence de ton baccalauréat en design graphique? Est-ce que ça devient de
Je pense
de
que
là?
Oui, en fait, il y a quelque chose de très graphique dans ce travail-là, mon travail en dessin. Puis je fais aussi comme... Je suis designer graphique, donc pour gagner ma vie, je travaille en design. Donc, puis c'est quelque chose que j'adore faire. Mais c'est sûr qu'il y a quelque chose dans le schéma, le mode d'emploi, donc le dessin au trait qui est très présent dans mon travail. Puis souvent, j'ai l'impression de faire des images graphiques, mais qui sont comme tridimensionnelles. Donc au lieu d'être bidimensionnelles, ils sont en trois dimensions, un peu comme la grosse face que j'avais présentée à Regard. C'était vraiment cette idée-là. C'était d'ailleurs une image de mode d'emploi que j'avais comme recréée. Comme si c'était un objet photocopié, mais en 3D. Donc, ce rapport-là d'objet, finalement, qui est un peu un hybride entre la sculpture ou l'objet tridimensionnel, puis le dessin.
Oui, c'est ça, parce qu'on travaille vraiment dessin, sculpture, installation, à la jonction de tout ça aussi. Donc, on peut pas juste se situer dans une petite case.
C'est ça,
hein. Puis, bon, peut-être dernière question en terminant. Est-ce que tu es influencé par la BD? Est-ce que t'aimes la BD?
J'ai lu très peu de BD dans ma vie, mais je sais que mon travail a un rapport assez proche avec évident avec la bande dessinée, mais je suis pas quelqu'un qui consomme de la BD. Même les dessins animés, j'en regarde un peu comme ça, mais je suis pas un maniaque de ça du tout. Donc, je sais pas, c'est plus un maniaque de schématisation, de simplification, de réduction, donc... C'est plus de dessin, donc je pense que ça vient de
contraste peut-être aussi.
Ouais, de contraste. Donc je travaille beaucoup avec avec les ça, la schématisation, c'est quelque chose qui me fascine beaucoup, tant au niveau là, théorique qu'au niveau graphique. Donc je dirais que ça vient probablement plus de là. Puis le rapport se fait à cause de ça. Donc la BD, c'est souvent des images au trait très simplifiées. Donc c'est peut-être le rapport qu'on peut faire là.
Ben, Francis Arguin, merci beaucoup. Si vous êtes intéressé à aller voir l'exposition, ça vaut le détour au hasard de vos promenades dans le Vieux-Québec en Basse-Ville. Donc, c'est Francis Arguin, Mes économies à la petite galerie de l'Œil de Poisson. C'est situé sur la côte d'Abraham. Vous avez jusqu'au 5 décembre pour y aller. On s'en va en pause audio, mais juste avant, je vous invite à nous écrire pour des questions, des commentaires, des réflexions, pourquoi pas pour nous parler d'une exposition que vous êtes allé voir, aerospatial.ckrl@gmail.com. Et là, on s'en va en pause audio. On écoute Éric Dorion avec Love on Planet Earth or Die sur les ondes de CKRL. We'll be right back. On vient d'entendre un extrait du travail de notre cher collaborateur Éric Dorion, c'était Love on Planet Earth or Die, le dernier extrait en fait qui est tiré de l'album Sonny Blunt Project. C'est l'heure du calendrier et là, en gros caractère gros souligné en jaune dans le calendrier, il y a en ce moment, j'ai oublié d'en parler avec Francis Arguin tantôt, mais demain au Cercle à 17h, c'est le lancement de la 4e affiche pour le 25e anniversaire de l'Œil de Poisson. L'affiche que Francis Arguin a fait, il l'a fait avec Félix Leblanc, elle s'appelle Le Match. Si jamais vous êtes intéressé, comme je dis, c'est à 17h et c'est 25$ par affiche pour une sérigraphie quand même à tirage limité. Ça vaut le détour. Ensuite, vendredi soir, au Musée national des beaux-arts du Québec, il y a une soirée de danse de Vuelva Alcadro, pardon. Vous excuserez mon espagnol, avec la compagnie d'art flamenco. Donc, c'est 30$ pour les amis et étudiants. C'est 27$. C'est bien entendu présenté dans le cadre de l'exposition de Goya à Dalí au Musée des beaux-arts. Plus tôt, le vendredi, il y a un vernissage à 17h à l'établi de l'exposition de Dany Taillon et Marilyn Champagne, une exposition qui s'appelle Perception. Puis, si vous avez des enfants que vous avez envie de faire une petite activité en famille, vous pouvez tous les dimanches du mois de novembre, il y a des ateliers pour enfants, des ateliers de collage, expérience surréaliste. Donc, c'est 2$ par personne. Il y a 3 ateliers par jour à 13h, 14h15 et 15h30. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez consulter le site Internet du Musée des beaux-arts. Cette semaine, il y a une exposition qui se termine. On a rencontré, j'oubliais son nom, Guillaume Adjutor-Provost pour l'exposition du collectif Relève Québec qui est présentée à vue. Ça se termine le 14 novembre, donc c'est le temps d'aller voir Changement d'identité, œuvre de fiction. Aussi à la galerie le 36, Marcel Jean présente 70-10, une sculpture. Le collectif Tout est parfait expose aussi jusqu'au 14 novembre, donc pour aller voir l'exposition Dessin qui est présentée à la galerie Zara. De notre côté, on fait une courte pause et dans la deuxième partie de l'émission rencontre Annelise Griffon, directrice artistique du Centre Regard pour parler de l'exposition d'Olga Chagaoudinova. Et Christelle Géard nous parle de l'exposition web de Frédéric Laliberté. Le tout sur les ondes de CKRL.